Nana, chapitre 4. Depuis le matin, Zoé avait livré l'appartement à un maître d'hôtel, venu de chez Brébant, avec un personnel d'aide et de garçons. C'était Brébant qui devait tout fournir, le souper, la vaisselle, les cristaux, le linge, les fleurs, jusqu'à des sièges et à des tabourets. Nana n'aurait pas trouvé une douzaine de serviettes au fond de ses armoires. Et, n'ayant pas encore eu le temps de se montrer dans son nouveau lansage, dédaignant d'aller au restaurant, elle avait préféré faire venir le restaurant chez elle. Ça lui semblait plus chic. Elle voulait fêter son grand succès d'actrice par un souper dont on parlerait. Comme la salle à manger était trop petite, le maître d'hôtel avait dressé la table dans le salon. Une table où tenaient 25 couverts, un peu serrés. « Tout est prêt ?» demanda Nana en rentrant à minuit. « Ah, je ne sais pas !» répondit brutalement Zoé, qui paraissait hors d'elle. « Dieu merci, je ne m'occupe de rien. Ils en font un massacre dans la cuisine et dans tout l'appartement. Avec ça, il a fallu me disputer. Les deux autres sont encore venus. Ma foi, je les ai flanqués à la porte. » Elle parlait des deux anciens messieurs de madame, du négociant et du valac, que Nana s'était décidée à congédier, certaine de l'avenir, désirant faire peau neuve, comme elle disait. « En voilà des crampons !» murmura-t-elle. « S'ils reviennent, menacez-les d'aller chez le commissaire !» Puis elle appela Daguenet et Georges, restés en arrière dans l'antichambre, où ils accrochaient leurs paletots. Tous deux s'étaient rencontrés à la sortie des artistes, passage des panoramas, et elle les avait amenés en fiacre. Comme il n'y avait personne encore, elle leur criait d'entrer dans le cabinet de toilette, pendant que Zoé l'arrangerait. En hâte, sans changer de robe, elle se fit relever les cheveux, piqua des roses blanches à son chignon et à son corsage. Le cabinet se trouvait encombré des meubles du salon, qu'on avait dû rouler là, un tas de guéridons, de canapés, de fauteuils, les pieds en l'air. Et elle était prête lorsque sa jupe se prit dans une roulette et se fendit. Alors elle jura furieuse. Ces choses n'arrivaient qu'à elle. Rageusement, elle ôta sa robe, une robe de foulard blanc, très simple, si souple et si fine qu'elle l'habillait d'une longue chemise. Mais aussitôt, elle la remit, n'en trouvant pas d'autre à son goût, pleurant presque, se disant faite comme une chiffonnière. Daguenet et Georges durent rentrer la déchirure avec des épingles, tandis que Zoé la recoiffait. Tous trois se hâtaient autour d'elle, le petit surtout, à genoux par terre, les mains dans les jupes. Elle finit par se calmer lorsque Daguenet lui assura qu'il devait être au plus minuit un quart, tellement elle avait dépêché le troisième acte de la blonde Vénus, mangeant les répliques, sautant des couplets. « C'est toujours trop bon pour ce tas d'imbéciles, » dit-elle. « Avez-vous vu? Il y avait des têtes ce soir. Zoé, ma fille, vous attendrez ici. Ne vous couchez pas, j'aurai peut-être besoin de vous. Bigre, il était temps, voilà du monde. » Elle s'échappa. Georges restait par terre, la queue de son habit balayant le sol. Il rougit en voyant Daguenet le regarder. Cependant, ils s'étaient pris de tendresse l'un pour l'autre. Ils refirent le nœud de leur cravate devant la grande psyché et se donnèrent mutuellement un coup de brosse, tout blanc de s'être frottés à Nana. « On dirait du sucre !» murmura Georges avec son rire de bébé gourmand. Un laquais, loué à la nuit, introduisait les invités dans le petit salon, une pièce étroite où l'on avait laissé quatre fauteuils seulement, pour y entasser le monde. Du grand salon voisin venait un bruit de vaisselle et d'argenterie remuée, tandis que, sous la porte, une raie de vive clarté luisait. Nana, en entrant, trouva, déjà installée dans un des fauteuils, Clarisse Bénu que la Faloise avait amenée. « Comment, tu es la première ?» dit Nana, qui la traitait familièrement depuis son succès. « Eh, c'est lui !» répondit Clarisse. « Il a toujours peur de ne pas arriver. Si je l'avais cru, je n'aurais pas pris le temps d'ôter mon rouge et ma perruque. » Le jeune homme, qui voyait Nana pour la première fois, s'inclinait et la complimentait, parlant de son cousin, cachant son trouble sous une exagération de politesse. Mais Nana, sans l'écouter, sans le connaître, lui serra la main, puis s'avança vivement vers Rose Mignon. Du coup, elle devint très distinguée. « Ah, chère madame, que vous êtes gentille! Je tenais tant à vous avoir !»«
C'est moi qui suis ravie, je vous assure !» dit Rose, également pleine d'amabilité.
« Asseyez-vous donc, vous n'avez besoin de rien ?»«
Non, merci. Ah, j'ai oublié mon éventail dans ma pelisse. Steiner, voyez dans la poche droite. »
Steiner et Mignon étaient entrés derrière Rose. Le banquier retourna, reparut avec l'éventail, pendant que Mignon, fraternellement, embrassait Nana et forçait Rose à l'embrasser aussi.
« Est-ce qu'on n'était pas tous de la même famille au théâtre ?»
Puis il cligna des yeux comme pour encourager Steiner. Mais celui-ci, troublé par le regard clair de Rose, se contenta de mettre un baiser sur la main de Nana. À ce moment, le comte de Vandœuvre parut avec Blanche de Sivry. Il y eut de grandes révérences. Nana, tout à fait cérémonieuse, mena Blanche à un fauteuil. Cependant, Vandœuvre racontait en riant que Fauchery se disputait en bas, parce que le concierge avait refusé de laisser entrer la voiture de Lucie Stewart. Dans l'antichambre, on entendit Lucie, qui traitait le concierge de sale muff. Mais quand le laquais eut ouvert la porte, elle s'avança avec sa grâce rieuse, se nomma elle-même, prit les deux mains de Nana, en lui disant qu'elle l'avait aimé tout de suite, et qu'elle lui trouvait un fier talent. Nana, gonflée de son rôle nouveau de maîtresse de maison, remerciait, vraiment confuse. Pourtant, elle semblait préoccupée depuis l'arrivée de Fauchery. Dès qu'elle put s'approcher de lui, elle demanda tout bas « Viendra-t-il ?»«
Non, il n'a pas voulu », répondit brutalement le journaliste pris à l'improviste, bien qu'il eût préparé une histoire pour expliquer le refus du comte Muffat. Il eut conscience de sa bêtise en voyant la pâleur de la jeune femme et tâcha de rattraper sa phrase.
« Il n'a pas pu. Il mène ce soir la comtesse au bal du ministère de l'Intérieur. »«
C'est bon, » murmura Nana, qui le soupçonnait de mauvaise volonté.
« Tu me paieras ça, mon petit. »«
Ah, dis donc, » reprit-il, blessé de la menace. « Je n'aime pas ces commissions-là. Adresse-toi à la bordette. »
Ils se tournèrent le dos. Ils étaient fâchés. Justement, Mignon poussait Steiner contre Nana. Lorsque celle-ci fut seule, il lui dit à voix basse, avec un cynisme bon enfant de compère qui veut le plaisir d'un ami.
« Vous savez qu'il en meurt, seulement il a peur de ma femme. N'est-ce pas que vous le défendrez ?»
Nana n'eut pas l'air de comprendre. Elle souriait, elle regardait Rose, son mari et le banquier. Puis elle dit à ce dernier « Monsieur Steiner, vous vous mettrez à côté de moi. » Mais des rires vinrent de l'antichambre, des chuchotements, une bouffée de voix gaies et bavardes, comme si tout un couvent échappé se fût trouvé là. Et la bordette parut, traînant cinq femmes derrière lui, son pensionnat, selon le mot méchant de Lucie Stewart. Il y avait Gaga, majestueuse dans une robe de velours bleu qui la sanglait, Caroline Ecquet, toujours en faille noire, garnie de chantilly, puis Léa de Horn, fagotée comme à son habitude, la grosse tata Nénée, une blonde bonne enfant à poitrine de nourrice dont on se moquait, enfin la petite Maria Blond, une fillette de 15 ans,
d'une maigreur et d'un vice de gamin que lançait son début aux folies. La Bordette avait amené tout ça dans une seule voiture. Et elle riait encore d'avoir été serrée, Maria Blond sur les genoux des autres. Mais elles pincèrent les lèvres, échangeant des poignées de main et des saluts, toutes très comme il faut. Gaga faisait l'enfant, zézéyait par excès de bonne tenue. Seule Tatan Néné, à qui l'on avait raconté en chemin que six nègres absolument nus servirait le souper de Nana, s'inquiétait, demandant à les voir. La Bordette la traita de dinde en la priant de se taire. « Et Bordenave ?» demanda Faucherie. « Oh, figurez-vous, je suis désolée !» s'écria Nana. « Il ne pourra pas être des nôtres. » « Oui, dit Rose Mignon, son pied s'est pris dans une trappe. Il a une entorse abominable. Si vous l'entendiez jurer, la jambe ficelée et allongée sur une chaise. » Alors tout le monde regretta Bordenave. On ne donnait pas un bon souper sans Bordenave. Enfin, on tâcherait de se passer de lui. Et l'on causait déjà d'autre chose lorsqu'une grosse voix s'éleva. « Quoi donc ? Quoi donc ? C'est comme ça qu'on m'enterre !» Il y eut un cri, chacun tourna la tête. C'était Bordenave, énorme et très rouge, la jambe raide, debout sur le seuil, où il s'appuyait à l'épaule de Simone Cabiroche. Pour l'instant, il couchait avec Simone. Cette petite, qui avait reçu de l'éducation, jouant du piano, parlant anglais, était une blonde toute mignonne, si délicate qu'elle pliait sous le rude poids de Bordenave, souriante et soumise pourtant. Il posa quelques secondes, sentant qu'ils faisaient tableau tous les deux. « Hein, il faut vous aimer, » continua-t-il. « Ma foi, j'ai eu peur de m'embêter. Je me suis dit, j'y vais. » Mais il s'interrompit pour lâcher un juron. « Cré, nom de Dieu !» Simone avait fait un pas trop vite, son pied venait de porter. Il la bouscula. Elle, sans cesser de sourire, baissant son joli visage comme une bête qui a peur d'être battue, le soutenait de toutes ses forces de petite blonde potelée. D'ailleurs, au milieu des exclamations, on s'empressait. Nana et Rose Mignon roulaient un fauteuil dans lequel Bordenave se laissa aller, pendant que les autres femmes lui glissaient un second fauteuil sous la jambe. Et toutes les actrices qui étaient là l'embrassèrent naturellement. Il grognait, il soupirait. « Crénom de Dieu ! Crénom de Dieu ! Enfin, l'estomac est solide, vous verrez ça !» D'autres convives étaient arrivés. On ne pouvait plus remuer dans la pièce. Les bruits de vaisselle et d'argenterie avaient cessé. Maintenant, une querelle venait du grand salon où grondait la voix furieuse du maître d'hôtel. Nana s'impatientait, n'attendant plus d'invités, s'étonnant qu'on ne servît pas. Elle avait envoyé Georges demander ce qui se passait, lorsqu'elle resta très surprise de voir encore entrer du monde, des hommes et des femmes. Ceux-là, elle ne les connaissait pas du tout. Alors, un peu embarrassée, elle interrogea Bordenave. Mignon, la Bordette. Il ne les connaissait pas non plus. Quand elle s'adressa au comte de Vandœuvre, il se souvint brusquement. C'étaient les jeunes gens qui l'avaient racolé chez le comte Muffa. Nana le remercia. Très bien, très bien. Seulement, on serait joliment serré. Et elle pria la Bordette d'aller faire ajouter 7 couverts. À peine était-il sorti que le valet introduisit de nouveau 3 personnes. Non, cette fois, ça devenait ridicule. On ne tiendrait pas, pour sûr. Nana, qui commençait à se fâcher, disait de son grand air que ce n'était guère convenable. Mais, en en voyant arriver encore 2, elle se mit à rire. Elle trouvait ça trop drôle. Tant pis, on tiendrait comme on tiendrait. Tous étaient debout. Il n'y avait que Gaga et Rose Mignon assises, Bordenave accaparant à lui seul 2 fauteuils.
Les voix bourdonnaient, on parlait bas, en étouffant de légers bâillements.
« Dis donc, ma fille, » demanda Bordenave, « si on se mettait à table tout de même, nous sommes au complet, n'est-ce pas ?»«
Ah oui, par exemple, nous sommes au complet, » répondit-elle en riant. Elle promenait ses regards, mais elle devint sérieuse, comme étonnée de ne pas trouver quelqu'un là. Sans doute, il manquait un convive dont elle ne parlait point. Il fallait attendre. Quelques minutes plus tard, les invités aperçurent au milieu d'eux un grand monsieur, à figure noble et à belle barbe blanche. Et le plus surprenant était que personne ne l'avait vu entrer. Il devait s'être glissé dans le petit salon par une porte de la chambre à coucher restée entr'ouverte. Un silence régna, des chuchotements couraient. Le comte de Vandœuvre savait certainement qui était le monsieur, car ils avaient tous deux échangé une discrète poignée de main. Mais il répondit par un sourire aux questions des femmes. Alors Caroline Hecquet, à demi-voix, paria pour un lord anglais, qui retournait le lendemain se marier à Londres. Elle le connaissait bien, elle l'avait eu. Et cette histoire fit le tour des dames. Seulement, Maria Blond prétendait, de son côté, reconnaître un ambassadeur allemand, à preuve qu'il couchait souvent avec une de ses amies. Parmi les hommes, en phrases rapides, on le jugeait. Une tête de monsieur sérieux. Peut-être qu'il payait le souper. Probable. Ça sentait ça. Bah, pourvu que le souper fût bon. Enfin, on resta dans le doute. On oubliait déjà le vieillard à barbe blanche lorsque le maître d'hôtel ouvrit la porte du grand salon. Madame est servie. Nana avait accepté le bras de Stenner sans paraître remarquer un mouvement du vieillard qui se mit à marcher derrière elle tout seul. D'ailleurs, le défilé ne put s'organiser. Les hommes et les femmes entrèrent débandés, plaisantant avec une bonhomie bourgeoise sur ce manque de cérémonie. Une longue table allait d'un bout à l'autre de la vaste pièce, vide de meubles. Et cette table se trouvait encore trop petite, car les assiettes se touchaient. Quatre candélabres à 10 bougies éclairaient le couvert. Un surtout en plaqué, avec des gerbes de fleurs à droite et à gauche. C'était un luxe de restaurant. De la porcelaine à filets dorés, sans chiffre, de l'argenterie usée et ternie par les continuels lavages, des cristaux dont on pouvait compléter les douzaines dépareillées dans tous les bazars. Cela sentait une crémaillère pendue trop vite, au milieu d'une fortune subite, et lorsque rien n'était encore en place. Un lustre manquait. Les candélabres, dont les bougies très hautes s'éméchaient à peine, faisait un jour pâle et jaune au-dessus des compotiers, des assiettes montées, des jattes, où les fruits, les petits fours, les confitures alternaient symétriquement. « Vous savez, » dit Nana, « on se place comme on veut. C'est plus amusant. » Elle se tenait debout au milieu de la table. Le vieux monsieur, qu'on ne connaissait pas, s'était mis à sa droite, pendant qu'elle gardait Steiner à sa gauche. Des convives s'asseyaient déjà quand des jurons partirent du petit salon. C'était Bordenave qu'on oubliait et qui avait toutes les peines du monde pour se relever de ses deux fauteuils, gueulant, appelant cette rosse de Simone filée avec les autres. Les femmes coururent pleines d'apitoiement. Bordenave apparut, soutenue, portée par Caroline, Clarisse, Tatanéné, Maria Blond. Et ce fut toute une affaire pour l'installer. « Au milieu de la table, en face de Nana » criait-on. « Bordenave au milieu, il nous présidera !» Alors ces dames l'assirent au milieu. Mais il fallut une seconde chaise pour sa jambe. Deux femmes soulevèrent sa jambe, l'allongèrent délicatement. Ça ne faisait rien, il mangerait de côté. « Crénom de Dieu » grognait-il. « Est-on empoté tout de même ?»« Ah, oh, mes petites chattes, papa se recommande à vous !» Il avait Rose Mignon à sa droite,
et Lucy Stewart à sa gauche. Elles promirent d'avoir bien soin de lui. Tout le monde maintenant se casait. Le comte de Vandœuvre se plaça entre Lucy et Clarisse. Fauchery entre Rose Mignon et Caroline Hecquet. De l'autre côté, Hector de la Faloise s'était précipité pour se mettre près de Gaga, malgré les appels de Clarisse. En face, tandis que Mignon, qui ne lâchait pas Stener, n'était séparé de lui que par Blanche, et avait à gauche Tatan Néné. Puis venait la Bordette. Enfin, au debout, se trouvaient des jeunes gens, des femmes. Simone, Léa de Horn, Maria Blond, sans ordre, en tas. C'était là que Daguenet et Georges Hugon sympathisaient de plus en plus, en regardant Nana avec des sourires. Cependant, comme deux personnes restaient debout, on plaisanta. Les hommes offraient leurs genoux. Clarisse, qui ne pouvait remuer les coudes, disait à Vandœuvre qu'elle comptait sur lui pour la faire manger. Aussi, ce bord de nave tenait une place avec ses chaises. Il y eut un dernier effort, tout le monde put s'asseoir. « Mais, par exemple, cria Mignon, on était comme des harengs dans un baquet. Purée d'asperges, comtesse, consommée à la Délignac, murmuraient les garçons en promenant des assiettes pleines derrière les convives. Bordenave conseillait tout haut le consommé lorsqu'un cri s'éleva. On protestait, on se fâchait. La porte s'était ouverte, trois retardataires, une femme et deux hommes venaient d'entrer. « Ah non, cela était de trop !» Nana, pourtant, sans quitter sa chaise, pinçait les yeux, tâchait de voir si elle les connaissait. La femme était Louise Violaine, mais elle n'avait jamais vu les hommes. « Ma chère, dit Vandœuvre, monsieur est un officier de marine de mes amis, monsieur de Foucarmont que j'ai invité. » Foucarmont salua, très à l'aise, ajoutant « Et je me suis permis d'amener un de mes amis. »« Ah, parfait, parfait !» dit Nana. « Asseyez-vous. Voyons, Clarisse, recule-toi un peu. Vous êtes très au large là-bas. Là, avec de la bonne volonté. » On se serra encore. Foucarmont et Louise obtinrent pour eux deux un petit bout de la table. Mais l'ami dut rester à distance de son couvert. Il mangeait, les bras allongés entre les épaules de ses voisins. Les garçons enlevaient les assiettes à potage, des crépinettes de l'apéro aux truffes et des gnocchis au parmesan circulaient. Bordenave ameuta toute la table en racontant qu'il avait eu un instant l'idée d'amener Prulière, Fontan et le vieux Bosque. Nana était devenue digne. Elle dit sèchement qu'elle les aurait joliment reçus. Si elle avait voulu avoir ses camarades, elle se serait bien chargée de les inviter elle-même. Non, non, pas de cabotin. Le vieux Bosque était toujours gris, Prulière se gobait trop. Quant à Fontan, il se rendait insupportable en société, avec ses éclats de voix et ses bêtises. Puis, voyez-vous, les cabotins étaient toujours déplacés lorsqu'ils se trouvaient parmi ces messieurs. « Oui, oui, c'est vrai, » déclara Mignon. Autour de la table, ces messieurs, en habit et en cravate blanche, étaient très corrects, avec leur visage blême, d'une distinction que la fatigue affinait encore. Le vieux monsieur avait des gestes lents, un sourire fin, comme s'il eût présidé un congrès de diplomates. Vandœuvre semblait être chez la comtesse Muffa, d'une exquise politesse pour ses voisines. Le matin encore, Nana le disait à sa tante. En homme, on ne pouvait pas avoir mieux. Tous nobles ou tous riches. Enfin, des hommes chics. Et quant aux dames, elles se tenaient très bien. Quelques-unes, Blanche, Léa, Louise, étaient venues décolletées. Seule Gaga en montrait peut-être un peu trop. D'autant plus qu'à son âge, elle aurait mieux fait de n'en pas montrer du tout. Maintenant qu'on finissait par se caser, les rires et les plaisanteries tombaient. Georges songeait qu'il avait assisté à des dîners plus gais chez des bourgeois d'Orléans. On causait à peine, les hommes qui ne se connaissaient pas se regardaient, les femmes restaient tranquilles. Et c'était surtout là le grand étonnement de Georges. Il les trouvait popotes. Il avait cru qu'on allait s'embrasser tout de suite. On servait les relevés, une carpe du Rhin à la Chambord et une selle de chevreuil à l'anglaise, lorsque Blanche dit tout haut « Lucie, ma chère, j'ai rencontré votre Olivier dimanche. Comme il a grandi !»«
Dame, il a 18 ans, répondit Lucie.
« Ça ne me rajeunit guère. Il est reparti hier pour son école. » Son fils Olivier, dont elle parlait avec fierté, était élève à l'école de marine. Alors, on causa des enfants. Toutes ces dames s'attendrissaient. Nana dit ses grandes joies. Son bébé, le petit Louis, était maintenant chez sa tante, qui l'amenait chaque matin vers 11 heures. Et elle le prenait dans son lit, où il jouait avec Lulu, son griffon. C'était à mourir de rire de les voir tous les deux se fourrer sous la couverture, au fond. On n'avait pas idée comme Louiset était déjà futé.
« Oh, hier, j'ai passé une journée !» raconta à son tour Rose Mignon. « Imaginez-vous que j'étais allée chercher Charles et Henri à leur pensionnat. Et il a fallu absolument les mener le soir au théâtre. Ils sautaient, ils tapaient leurs petites mains. « Nous verrons jouer, maman! Nous verrons jouer, maman !»
Oh, un train, un train !» Mignon souriait complaisamment, les yeux humides de tendresse paternelle.
« Et à la représentation, continua-t-il, ils étaient si drôles, sérieux comme des hommes, mangeant rose du regard, me demandant pourquoi maman avait comme ça les jambes nues. »
Toute la table se mit à rire. Mignon triomphait, flatté dans son orgueil de père. Il adorait les petits. Une seule préoccupation le tenait, grossir leur fortune en administrant, avec une rigidité d'intendant fidèle, l'argent que gagnait Rose au théâtre et ailleurs. Quand il l'avait épousée, chef d'orchestre dans le café-concert où elle chantait, ils s'aimaient passionnément. Aujourd'hui, ils restaient bons amis. C'était réglé entre eux. Elle travaillait le plus qu'elle pouvait, de tout son talent et de toute sa beauté. Lui avait lâché son violon pour mieux veiller sur ses succès d'artiste et de femme. On n'aurait pas trouvé un ménage plus bourgeois ni plus uni.
« Quel âge a l'aîné ?» demanda Vandeuvre.
« Henri a 9 ans, répondit Mignon.
« Oh, mais c'est un gaillard !»
Puis il plaisanta Sténère qui n'aimait pas les enfants. Et il lui disait d'un air de tranquille audace que, s'il était père, il gâcherait moins bêtement sa fortune. Tout en parlant, il guettait le banquier par-dessus les épaules de Blanche, pour voir si ça se faisait avec Nana. Mais depuis quelques minutes, Rose et Fauchery, qui causaient de très près, l'agaçaient. Rose, peut-être, n'allait pas perdre son temps à une pareille sottise. Dans ces cas-là, par exemple, il se mettait en travers. Et, les mains belles, un diamant au petit doigt, il achevait un filet de chevreuil. D'ailleurs, la conversation sur les enfants continuait. La Faloise, emplie de troubles par le voisinage de Gaga, lui demandait des nouvelles de sa fille, qu'il avait eu le plaisir d'apercevoir avec elle aux variétés.
Lily se portait bien, mais elle était encore si gamine.
Il resta surpris en apprenant que Lily entrait dans sa 19e année. Gaga devint à ses yeux plus imposante. Et, comme il cherchait à savoir pourquoi, elle n'avait pas amené Lily.
« Oh non, non, jamais » dit-elle d'un air pincé. « Il n'y a pas 3 mois qu'elle a voulu absolument sortir du pensionnat. Moi, je rêvais de la marier tout de suite. Mais elle m'aime tant, j'ai dû la reprendre. Ah, bien contre mon gré !»
Ses paupières bleuies, aux cils brûlés, clignotaient tandis qu'elle parlait de l'établissement de sa demoiselle. Si, à son âge, elle n'avait pas mis un sou de côté, travaillant toujours, ayant encore des hommes, surtout de très jeunes, dont elle aurait pu être la grand-mère, c'était vraiment qu'un bon mariage valait mieux. Elle se pencha vers la Faloise, qui rougit sous l'énorme épaule nue et plâtrée dont elle l'écrasait. « Vous savez, murmura-t-elle, si elle y passe, ce ne sera pas de ma faute, mais on est si drôle quand on est jeune. » Un grand mouvement avait lieu autour de la table. Les garçons s'empressaient. Après les relevés, les entrées venaient de paraître. Des poulardes à la maréchale, des filets de saule, sauce ravigote, et des escalopes de foie gras. Le maître d'hôtel, qui avait fait verser jusque-là du meursault, offrait du chambertin et du léoville. Dans le léger brouhaha du changement de service, Georges, de plus en plus étonné, demanda à Daguenet si toutes ces dames avaient comme ça des enfants. Et celui-ci, amusé par cette question, lui donna des détails. Lucy Stewart était fille d'un graisseur d'origine anglaise, employé à la gare du Nord. 39 ans, une tête de cheval, mais adorable, phtisique et ne mourant jamais. La plus chic de ces dames, 3 princes et un duc. Caroline Eke, née à Bordeaux, d'un petit employé mort de honte, avait la bonne chance de posséder pour mère une femme de tête, qui, après l'avoir maudite, s'était remise avec elle, au bout d'un an de réflexion, voulant au moins lui sauver une fortune. La fille, âgée de 25 ans, très froide, passait pour une des plus belles femmes qu'on pût avoir, à un prix qui ne variait pas. La mère, pleine d'ordre, tenait les livres, une comptabilité sévère des recettes et des dépenses, menait toute la maison de l'étroit logement qu'elle habitait 2 étages plus haut et où elle avait installé un atelier de couturière pour les robes et le linge. Quant à Blanche de Civry, de son vrai nom Jacqueline Baudu, elle venait d'un village près d'Amiens. Magnifique personne, bête et menteuse, se disant petite fille d'un général et n'avouant pas ses 32 ans. Très goûtée des Russes à cause de son embonpoint. Puis, rapidement, Daguenet ajouta un mot sur les autres. Clarisse Bénu, ramenée comme bonne de Saint-Aubin-sur-Mer par une dame dont le mari l'avait lancée. Simone Cabiroche, fille d'un marchand de meubles du faubourg Saint-Antoine, élevée dans un grand pensionnat pour être institutrice. Et Maria Blond, et Louise Violaine, et Léa de Horn, toutes poussées sur le pavé parisien, sans compter Tatan Néné, qui avait gardé les vaches jusqu'à 20 ans dans la champagne pouilleuse. Georges écoutait, regardant ces dames, étourdi et excité par ce déballage brutal, fait crûment à son oreille. Pendant que, derrière lui, les garçons répétaient d'une voix respectueuse « Poulardes à la maréchale, filet de sol, sauce ravigote. »« Mon cher, » dit Daguenet qui lui imposait son expérience, « ne prenez pas de poisson, ça ne vaut rien à cette heure-ci. Et contentez-vous du Léoville, il est moins traître. » Une chaleur montait des candélabres, des plats promenés, de la table entière, où 38 personnes s'étouffaient. Et les garçons, s'oubliant, courait sur le tapis qui se tachait de graisse. Pourtant, le souper ne s'égayait guère. Ces dames chipotaient, laissant la moitié des viandes. Tatan Néné seule mangeait de tout, gloutonnement. À 7 heures avancée de la nuit, il n'y avait là que des faims nerveuses, des caprices d'estomac détraqués. Près de Nana, le vieux monsieur refusait tous les plats qu'on lui présentait. Il avait seulement pris une cuillerée de potage. Et, silencieux devant son assiette vide, il regardait. On bâillait avec discrétion. Par moments, des paupières se fermaient, des visages devenaient terreux. C'était crevant, comme toujours, selon le mot de Vandœuvre. Ces soupers-là, pour être drôles, ne devaient pas être propres. Autrement, si on le faisait à la vertu, au bon genre, autant manger dans le monde, où l'on ne s'ennuyait pas davantage. Sans Bordenave, qui gueulait toujours, on se serait endormi. Cet animal de Bordenave, la jambe bien allongée, se laissait servir avec des airs de sultan par ses voisines, Lucie et Rose. Elle n'était occupée que de lui, le soignant, le dorlotant, veillant à son verre et à son assiette. Ce qui ne l'empêchait pas de se plaindre. « Qui est-ce qui va me couper ma viande ? Je ne peux pas, la table est à une lieue. » À chaque instant, Simone se levait, se tenait derrière son dos pour couper sa viande et son pain. Toutes les femmes s'intéressaient à ce qu'il mangeait. On rappelait les garçons, on lui en fourrait à l'étouffer. Simone, lui ayant essuyé la bouche, pendant que Rose et Lucie changeaient son couvert, il trouva ça très gentil. Et, daignant enfin se montrer content, « Voilà, tu es dans le vrai, ma fille. Une femme, ce n'est fait que pour ça. » On se réveilla un peu. La conversation devint générale. On achevait des sorbets aux mandarines. Le rôti chaud était un filet aux truffes, et le rôti froid, une galantine de pintade à la gelée. Nana, que fâchait le manque d'entrain de ses convives, s'était mise à parler très haut. Vous savez que le prince d'Écosse a déjà fait retenir une avant-scène pour voir la blonde Vénus quand il viendra visiter l'exposition ?
J'espère bien que tous les princes y passeront, déclara Bordenave la bouche pleine.
On attend le chat de Perse dimanche, dit Lucie Stewart. Alors Rose Mignon parla des diamants du chat. Il portait une tunique entièrement couverte de pierreries. Une merveille, un astre flambant qui représentait des millions. Et ces dames, pâles, les yeux luisants de convoitise, allongeaient la tête, citaient les autres rois, les autres empereurs qu'on attendait. Toutes rêvaient de quelque caprice royal, d'une nuit payée d'une fortune. « Dites donc, mon cher, demanda Caroline Équet à Vandœuvre en se penchant. « Quel âge a l'empereur de Russie ?»«
Oh, il n'a pas d'âge, » répondit le comte qui riait. « Rien à faire, je vous en préviens. »
Nana affecta de paraître blessée. Le mot semblait trop raide. On protesta par un murmure. Mais Blanche donnait des détails sur le roi d'Italie, qu'elle avait vu une fois à Milan. Il n'était guère beau, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir toutes les femmes. Et elle resta ennuyée lorsque Fauchery assura que Victor Emmanuel ne pourrait venir. Louise Violaine et Léa en tenaient pour l'empereur d'Autriche. Tout d'un coup, on entendit la petite Maria Blond qui disait « En voilà un vieux séco que le roi de Prusse. J'étais à Bade l'année dernière. On le rencontrait toujours avec le comte de Bismarck. »
« Tiens, Bismarck ? » interrompit Simone. « Je l'ai connu, moi. Un homme charmant. »« C'est ce que je disais hier, » s'écria Vandœuvre. « On ne voulait pas me croire. »
Et, comme chez la comtesse Sabine, on s'occupa longuement du comte de Bismarck. Vandœuvre répéta les mêmes phrases. Un instant, on fut de nouveau dans le salon des Muffat. Seules les dames étaient changées. Justement, on passa à la musique. Puis Foucarmont ayant laissé échapper un mot de la prise de voile dont Paris causait, Nana, intéressée, voulut absolument avoir des détails sur Mademoiselle de Fougeray. « Oh, la pauvre petite, s'enterrer comme ça vivante !» Enfin, quand la vocation avait parlé... Autour de la table, les femmes étaient très touchées. Et Georges, ennuyé d'entendre ces choses une seconde fois, interrogeait Daguenet sur les habitudes intimes de Nana, lorsque la conversation revint fatalement au comte de Bismarck. Tatan aîné se penchait à l'oreille de la Bordette pour demander qui était ce Bismarck qu'elle ne connaissait pas. Alors, la Bordette, froidement, lui conta des histoires énormes. Ce Bismarck mangeait de la viande crue. Quand il rencontrait une femme près de son repère, il l'emportait sur son dos. Il avait déjà eu de cette manière 32 enfants à 40 ans.
À 40 ans ! 32 enfants ! S'écria Tatan aîné, stupéfaite et convaincue. Il doit être joliment fatigué pour son âge.
On éclata de rire. Elle comprit qu'on se moquait d'elle.
Êtes-vous bête ? Est-ce que je sais, moi, si vous plaisantez ?
Cependant, Gaga en était restée à l'exposition. Comme toutes ces dames, elle se réjouissait, elle s'apprêtait. Une bonne saison, la province et l'étranger se ruant dans Paris. Enfin, peut-être, après l'exposition, si les affaires avaient bien marché, pourrait-elle se retirer à Juvisy, dans une petite maison qu'elle guettait depuis longtemps.
« Que voulez-vous ? » disait-elle à la Faloise. « On n'arrive à rien, si l'on était aimé encore. »